Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité cet après-midi s'appelle...
Éric Romalehère.
Il est enseignant et moine bouddhiste. Avec lui, nous soumettons la question du but qui nous occupe toute cette semaine à la pensée et à la tradition bouddhiste. Il s'agira de l'étape du milieu. Dans le journal Libération d'aujourd'hui, le géographe Yves Rébaud dit « En moyenne, 75% du budget loisirs des communes bénéficie à des activités masculines. Cela institutionnalise la présence des garçons dans la rue. » Il dit encore « Si l'agression sexuelle reste l'exception, le sentiment de harcèlement est très répandu. Drague lourde, agression verbale, frotteur-frôleur dans les transports en commun. Voilà ce qui limite les femmes dans leurs déplacements. Quand la sortie devient une épreuve pour les filles, cela les invite implicitement à rester chez elles, alors l'espace public se masculinise et le déséquilibre se crée. Quand les hommes et les femmes sont en nombre égal dans l'espace public, le sentiment de sécurité est plus fort pour tout le monde et ça change l'ambiance. Il est 16h passé de 1 minute, changeons l'ambiance. Vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur l'image polaroïde du jour apparaît un équilibriste. Sur le plateau du milieu, vers 16h20, le troisième moment d'une semaine imaginée autour du mot « but ». Cette question du but, que nous avons évoquée hier au cœur presque de son milieu naturel, le terrain de football, nous la déplaçons aujourd'hui et l'adressons au champ de la pensée bouddhiste. Que peut-elle nous dire du but ou du manque de but ou du but comme ce qui nous manque? Vers 16h50, nous écoutons un poème de Gilles Heillot. Il sera 17h ensuite et nous serons rejoints par les équipes du 5 à 7. Depuis lundi, la comédienne Ava Hervier déballe pour vous sa bibliothèque et choisit de vous faire entendre des textes qui comptent ou qui ont compté pour elle. Il s'agit aujourd'hui d'un extrait de Pornoterrorisme, récit autobiographique de Diana J. Torres, une artiste et activiste espagnole. On écoute Ava Hervier.
Découvrir sa propre sexualité, c'est aussi découvrir jusqu'à quel point ce que nous appelons notre sexe ne nous appartient pas. Il appartient à l'hétéronorme, à la société de consommation, à l'église et au patriarcat, à la pornographie mainstream, aux industries pharmaceutiques, à la mode, etc. Ce qui me différencie des gens qui baisent selon la norme en vigueur est que j'ai fait passer le plaisir et la curiosité devant la peur, pour la dépasser. Je jouis comme une fontaine. Je laisse ma chatte engloutir ce qui lui plaît. Je baisse des chattes et des hommes par l'anus. Je me branle où et quand j'en ai envie. J'utilise des prothèses et je laisse le plaisir se répandre et couler à foison. Ce « je suis lesbienne » que je prononçais un jour avec orgueil, par goût, par nécessité et pour me sentir partie intégrante de quelque chose, s'effondra à l'instant où, grâce à mes nouvelles amitiés, je sus que je n'allais jamais m'emboîter dans des catégories non seulement asphyxiantes, mais faisant partie des plans de l'ennemi. Hétéro, homo, lesbo, bi, quelle galère! Ce que l'on se sent légère quand on se nettoie de cette merde. Un tas de personnes croient que nous, les gens au corps non normatif, sommes une bande d'aigris qui, fruit de la rage de ne pas pouvoir s'associer à leur structure parfaite, faisons ces choses faute de mieux. Dans leur aveuglement, ils ne se rendent pas compte que leur couple, leur famille, leur partie de jambes en l'air du samedi soir, leur prière du lendemain, leurs emplois du temps à temps complet, leur bonheur soumis aux lois du troupeau nous donnent la gerbe. Si nous ne sommes pas à leur côté, c'est par volonté politique et morale. Car nous ne voulons pas renoncer à notre liberté ni nous soumettre à leurs normes avec ou sans droit d'admission. Très récemment, j'ai découvert qu'il y a peut-être une aile du féminisme qui pourrait m'abriter avec tous mes vices et vertus, comme une fille égarée, sale, chienne, pute, maso, punk, non-conformiste. Le transféminisme. C'est l'avenir du féminisme, et celles qui ne veulent pas le voir resteront aveuglées par les grandes vérités qui brillent dans ces idées si fortes. Si on ne veut pas comprendre que les idées sont, tout comme les personnes, mutantes, qu'on aille se faire cuire un œuf et qu'on nous foute la paix. Toute personne produit du genre, produit de la liberté. argumentons avec des genres infinis, appelons à la réinvention à partir du désir. Nous sommes ce qui nous plaît. Travestis, gouine, superfemme, butch, pute, trans, nous portons le voile et parlons wolof. Nous sommes réseau, troupeau, furieux. Les féministoïdes et les experts en tendance cool mettent maintenant le mot queer dans tout ce qu'elles font pour ne pas paraître comme rétrograde ancrée dans le discours sur la femme, le discours sur les lesbiennes, pour apaiser les critiques, pour monter le commerce sur le dos de nos rêves. Mais elles n'ont pas assumé en aucun cas ce que suppose et signifie queer. Cela ne les intéresse pas et de fait les gêne profondément. Queer signifie que continuer à parler de la femme n'a pas de sens. Queer signifie que des catégories telles PD, hétéro, lesbienne n'ont plus de sens et sont en plus contradictoires et contre-productives. C'est bien plus intéressant et productif de savoir s'il y a une éthique derrière nos actes, une conscience vraiment politique, une responsabilité. Et cette conscience dans le mouvement transféministe que j'imagine naît de l'intention que d'autres personnes arrêtent de décider sur nos corps et nos sexualités, protégées précisément par ces catégories absurdes dont nous devons nous détacher pour pouvoir construire quelque chose de fort. Je défendrai le queer, le transféminisme et défendrai avec toute mon énergie les personnes avec qui l'on va s'embarquer dans cette aventure. J'ai envie, j'ai la force et je n'ai pas peur de l'avenir car je sais qu'il nous appartient.
Ava Hervé, c'est un texte de Diana J. Torres qui est extrait de Porno-terrorisme. Qui est-elle ?
C'est quelqu'un que j'ai découvert assez récemment. Je n'en sais pas énormément. Je sais que c'est donc une jeune femme espagnole qui est performeuse, écrivaine, je ne sais pas comment on dit, à la fois aussi activiste, justement, transféministe et tout ça. Et... En fait, j'ai lu ce passage, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai lu ce passage dans le cadre justement d'une émission dans laquelle je faisais des lectures, et je suis retombée dessus. Je trouve ça hyper important ce qu'elle raconte. Et notamment aujourd'hui, je trouve que, bah voilà, de tout temps, mais je trouve que voilà, ce qui s'est passé l'année dernière, notamment avec le mariage pour tous, mais tout simplement, je trouve qu'on est dans des sociétés où on met facilement les gens dans des cases. Et je trouve que c'est enfin ce qu'elle revendique, je trouve ça important, pas seulement pour ce qu'elle est elle, mais pour toute personne qui se pose des questions, qui essaye tant bien que mal de se faire une place, je trouve, dans la société dans laquelle on vit, quoi. Qui est quand même... ouais, je trouve que c'est difficile d'être original, en fait. C'est difficile d'être différent... Et je trouve que c'est ça qui est beau, et je trouve que c'est ce qu'on... D'ailleurs, tout... Enfin, voilà, ces auteurs, je trouve que la singularité est hyper importante, et je trouve qu'on a de plus en plus peur de la laisser exister, et je trouve que c'est dommage.
C'est une ressource, dans ce cas, la littérature, par exemple, qu'il s'agisse de ces textes-là, ou des textes que vous avez lus les jours précédents, ou allez lire. Est-ce que ça peut être, par exemple, le lieu... d'une libération qu'elle semble appeler de ses voeux ?
Je pense que oui. Je pense que déjà, c'est un premier lieu de liberté. Et à la fois pour ses écritures qui sont des écritures voilà, qui sortent des tripes, qui sortent encore une fois du corps. Mais voilà, l'esprit, c'est aussi le corps. Et je pense que ça permet de guider ceux qui cherchent ces choses-là. Et puis après... Je pense que écrire aussi, ça peut être aussi une espèce de solution à ça, une réponse à ces questions-là et un endroit de liberté important, quoi. Et je trouve qu'il y a aussi, en effet, du coup, une littérature qui est tellement liée au pouvoir que c'est important d'entendre ça dans certains textes. Et voilà.
Quelle musique vous souhaitez associer à ce texte-là ?
On pourrait mettre Planning to Rock, Human Drama. Been burning up inside day to day, trying to find the words to explain my sexuality. Thank you.
so political. Give me a human drama again, again. Give me a human drama, we break a box to find a hundredfold. Give me a human drama, there's lots to learn, but so much more to unlearn. Give me a human drama, the personal is so political. The gender's just a lie. The gender's just a lie. Give me a human drama and understand the gender's just a game. Give me a human drama, all sexuality is not the same. Give me a human drama, the personal is so political. Give me a human drama, it kind of feels the gender's just a lie. Gender's just a lie.
Demain, Ava Hervier poursuit le déballage de sa bibliothèque. Elle nous lira un extrait du Théâtre des paroles de Valère Novarina. En attendant, vivons quelques apparitions d'images. À vous de jouer, c'est le Polaroid. Autant la ville sait se rendre vacante à bien des endroits, autant elle est ici d'une concentration étourdissante. Le moindre bout de trottoir est pétri d'une preuve d'elle. Cette ville étourdit l'espace. Sa sorte de crasse et de vitesse, sa façon d'allonger les herbes pour faire tomber sur elle des pluies de carbone, sa façon encore de rendre tout étalage de salades et de fruits étrange, suspect, et immangeable. Ici, on trouve une quantité ahurissante de cigarettes à bas prix et aussi des pantalons en laine de plastique fabriqués à l'autre bout du monde. Ici, on trouve quantité de corps tellement tendus par l'ennui qu'ils en deviennent électriques. Au-dessus, en dessous, des voies. L'avenue est coupée en deux. Un terre-plein d'à peine un mètre sépare le flot des voitures qui vont vers le périphérique de celles qui en reviennent. Il y a un homme qui marche sur le terre-plein, funambule sur le fil. Il est sans peur, concentration extrême et lucidité. Les conducteurs qui le frôlent ne le voient pas, pourtant son visage encadré de cheveux blonds, peroxydés et radieux. Dans le poste qu'il tient près de son oreille, et qui cherche un équilibre savant sur l'axe clavicule-épaule, il a glissé une vieille cassette chérie de musique ralentie, langoureuse et lente.
From the corner of my to the back of my mind, I
Ça met tout le monde dans un état. Pour ce Polaroid, Miss Chanel choisissait donc de vous faire entendre One Day de Paolo Nutini, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un jeune chanteur écossais. Si vous êtes un vieil auditeur de cette émission ou une vieille auditrice de cette émission, vous connaissez Laurence Vielle, auteure et comédienne belge que nous avons reçue plusieurs fois et dont nous apprécions l'engagement dans le travail. Sinon, si vous ne la connaissez pas, vous aurez peut-être le plaisir de la découvrir. Elle joue en ce moment et jusqu'au 7 juin à la Maison des Métallos à Paris un spectacle qui s'appelle « Du coq à l'âne ». Coq est une ville de Flandre, l'âne est une ville de Wallonie et ses 150 km de petites et grandes histoires belges, elle les a parcourues en marchant. Laurence Vielle à la Maison des Métallos à Paris. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h passé de 21 minutes. C'est la deuxième partie de notre émission et le troisième moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « but ». Hier, nous évoquions avec Pierre-Louis Basse les 11 buts qui ont marqué sa vie et sa carrière de journaliste, en même temps que nous réfléchissions à ce qui fabrique un but dans une partie de football, part de fulgurance et part de construction collective. Lundi, nous distinguions les notions de but, d'objectif et de projet pour élaborer une pensée du projet libérée de l'obsession, libérée de la norme. Aujourd'hui, nous posons la question du but à la pensée et à la tradition bouddhiste. Si le but est une anticipation à court terme, une façon d'appréhender, d'accaparer, de se projeter dans le futur, disait-on lundi, d'une manière assez unilatérale, il semble que la pensée bouddhiste favorise un ici et maintenant totalement soumis au régime de l'impermanence. Alors, s'il existe une voie dans cette pensée bouddhiste, existe-t-il nécessairement un but ? Quel est-il ? Comment l'atteindre ? Éric Romulaire, c'est sûr qu'on ne répondra pas à toutes ces questions aujourd'hui. En tout cas, on va avancer dans la formulation de ces questions-là. Vous êtes moine et enseignant bouddhiste, auteur de plusieurs livres, dont « Le bouddhisme engagé » paru aux éditions du Seuil, « Le bouddhisme n'existe pas » paru aussi aux éditions du Seuil, et un dernier petit livre, « Se soucier du monde » paru, lui, aux éditions Almora. Et puisque vous l'aimez bien, on va quand même dire qu'il y a ce livre « Les bouddhistes naissent dans le feu ».
Les bouddhas naissent dans le feu.
Les bouddhas naissent dans le feu, c'était paru aux éditions du Seuil. Avec tout ça, bonjour et bienvenue.
Bonjour Marie Richaud.
Alors, puisqu'il y a un livre qui s'appelle « Le bouddhisme n'existe pas », il faut peut-être qu'on sache comment formuler les choses aujourd'hui et dire de quoi on parle quand on parle de bouddhisme. Est-ce qu'on peut parler de bouddhisme s'il n'existe pas ? Et quelle est la question qui est d'ores et déjà mise en tension dans le fait de pouvoir ou non parler de bouddhisme ?
C'est une vraie question. Tout mon travail au cours des dernières années, c'est d'essayer de penser le bouddhisme en tant que bouddhiste, en tant que disciple du Bouddha. Le terme de bouddhisme, qui est le terme convenu, habituel, que nous utilisons en Occident depuis deux siècles maintenant, est un terme un peu biaisé, qui renvoie, en tout cas dans notre imaginaire, ou qui peut laisser croire que le bouddhisme serait un isme comme tant d'autres choses, et que l'on y mettrait derrière une religion, un système de croyances, une vérité, des dogmes. Et toute la force de ces enseignements, c'est de montrer une autre dimension de l'être, une autre dimension d'un chemin, une autre dimension d'un projet, d'un but, mais qui ne s'inscrit pas dans un système de croyances. Voilà, donc j'avais écrit donc ce livre il y a deux ans, trois ans maintenant, qui s'appelle « Le bouddhisme n'existe pas » pour essayer de lever un certain nombre de mécompréhensions. Et je préfère que l'on parle de dharma, ce qui est le terme utilisé par les bouddhistes. Aujourd'hui, on n'utilise pas pour l'islam le terme de mahométisme, qui était celui qui était utilisé il y a quelques dizaines ou quelques centaines d'années. Maintenant, on utilise le mot d'islam. On devrait avoir la même attitude vis-à-vis des enseignements du Bouddha.
Qu'est-ce qu'on entend par dharma dans ce cas alors ? Ça désigne un corpus d'enseignement, ça désigne un corpus de textes, de pensées, d'héritage ?
Alors, il y a différentes manières d'aborder ce terme. J'ai essayé de montrer, à travers une possible traduction, ce que pouvait être le dharma. Le dharma, j'ai essayé de le traduire par dispositif. Je pense que les enseignements du Bouddha sont un travail vraiment sur notre existence qui essaye d'approcher vraiment ce que nous sommes. Et ces enseignements proposent une pédagogie du changement. vraiment nous libérer de certains traits qui nous engluent dans notre mode ordinaire et propose un certain nombre de dispositifs. Les dispositifs sont à la fois par la parole, nous sommes des êtres humains, nous communiquons, donc le langage a une importance primordial aussi dans ces enseignements. Donc on peut parler aussi de corpus, hein, il y a des textes canoniques hein, qui ont été écrits, mais il y a aussi, on pourrait dire, les dispositifs pratiques. C'est ce qu'on entend, par exemple, autour des mots de méditation. Donc vraiment, pour moi, ces enseignements tournent autour d'une pédagogie du changement.
Puisque vous utilisez le mot méditation et que c'est un mot qui est dans l'air du temps, pas forcément dans un air du temps très, comment on pourrait dire, hétérodoxe, orthodoxe plutôt, est-ce que vous pouvez le repréciser ? Qu'est-ce qu'on entend par méditation dans le champ du bouddhisme ?
Pardon. Là aussi, c'est difficile parce que les traditions bouddhistes sont plurielles, c'est une longue histoire, c'est 2500 ans d'histoire avec différentes approches. On pourrait dire, en tout cas, ce qu'on entend par méditation est un ensemble de techniques psychocorporelles qui nous portent à voir ce que nous sommes et à travailler sur cette matière de l'existence. Mais en n'utilisant pas nos méthodes occidentales, qui sont plutôt l'introspection, la méditation au sens de la réflexion. Là, c'est entrer dans un autre rapport qui n'est pas médiatisé par la réflexion construite. Donc c'est toucher à un certain nombre de dispositions intérieures, notamment l'amour, la bienveillance, et de les laisser s'exprimer.
Comment est-ce qu'on peut parler d'enseignement, comment on peut parler de transmission dans la mesure où l'idée de disciple est pas forcément discutable, mais difficile à, je sais pas comment dire, difficile à soutenir, il me semble, dans le bouddhisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parler d'être disciple du bouddhisme, c'est forcément s'inscrire dans un bouddhisme qui se définit, qui est dans une forme de dogme, de pensée.
Non, c'est tout le travail qui est donné à vivre dans ces enseignements, c'est sortir de la gangue de ces représentations. Et donc, une des manières de sortir de ces représentations, c'est d'être en contact réel avec quelqu'un qui travaille dans ce chemin. Donc il y a une importance qui est donnée à la transmission, c'est-à-dire vraiment un travail de personne à personne, comme nous avons connu ou comme nous pouvons encore connaître dans certaines
disciplines.
Dans certaines disciplines, pardon, merci.
Concernant votre parcours, comment est-ce que vous avez reçu cet enseignement ?
Par la rencontre. Vraiment, la pratique du bouddhisme, c'est voir, sentir comment des gens vivent cette pédagogie du changement dans leur propre vie. Ils restent des êtres humains avec leurs difficultés, parfois leurs névroses, mais ils sont inspirés et ils voient au-delà d'eux-mêmes. Donc ça, c'est la manière d'entrer en contact avec ces enseignements à travers des gens qui vivent cet enseignement au plus profond d'eux-mêmes.
C'est-à-dire qui ont été ces personnes clés dans votre parcours ?
Ah, pour moi, c'est des... Alors, je me situe dans une tradition qui est la tradition du bouddhisme zen japonais. Et donc, plus particulièrement, c'est avec des enseignants japonais. Certains sont décédés, certains sont encore vivants.
Puisqu'on a décidé de poser cette question du but ou de la soumettre à ce qu'on appelle donc la tradition ou l'enseignement bouddhiste, est-ce qu'on peut considérer que le bouddhisme parle d'un but et quel serait ce but-là ?
Tout le propos donc des émissions de cette semaine, c'est la thématique du but. Oui, dans le bouddhisme, il y a un but. Ou alors, le terme de but, j'ai essayé de trouver un équivalent dans les langues orientales, c'est un peu difficile. En tout cas, un projet. Tout le regard que posent ces enseignements, c'est un regard sur la construction de l'identité. Et vraiment, ce qui est le plus proche du bouddhisme dans nos horizons, c'est vraiment la psychologie, voire la psychanalyse. Donc, il y a un regard sur comment se construit-on Et ces enseignements, ce dharma, voit deux dimensions possibles dans l'existence. La dimension que l'on appelle, en termes bouddhiques, l'illusion, et une autre qui n'est pas directement visible, que nous ne percevons pas, sinon d'une manière très lointaine, que l'on appelle l'éveil. Alors, illusion, éveil, c'est comme une manière vraiment d'approcher et de cerner. Alors pour nous qui sommes des Occidentaux, on parle illusion, éveil, ça peut sembler un peu éthéré. Je crois que si on veut le retranscrire en des termes plus accessibles, je dirais que le projet du bouddhisme, le projet du dharma, c'est de trancher nos névroses. Vraiment, il y a toute une approche sur les névroses qui nous constituent. Alors, la psychanalyse dira la névrose est la condition normale de l'être humain. Alors, le bouddhisme, le dharma dira exactement la même chose. Mais il y a une possibilité de vivre autrement son être et ses névroses. Et c'est ça le projet même du dharma.
Est-ce qu'il y a dans cette répartition illusion-éveil quelque chose de positif dans l'illusion ou est-ce que forcément c'est réparti en négatif-positif ?
Il n'y a pas de jugement. Toute l'approche aussi est très thérapeutique. Quand vous êtes malade, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est juste ? Vous êtes mal, vous avez envie de changer. Toute l'approche est une approche thérapeutique. Et c'est aussi en ce sens qu'elle est assez, je trouve, il y a une proximité aussi avec la psychologie ou la psychanalyse, pédagogie du changement, pédagogie thérapeutique. Donc on ne va pas aborder en termes de positif, négatif, on va dire qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui nous endommage et qu'est-ce qui nous libère. Voilà, c'est plutôt dans cette approche-là.
Vous qui avez pensé le bouddhisme dans sa redéfinition, dans la possibilité de sa redéfinition au contact avec le monde occidental, est-ce que ce que vous nommez approche thérapeutique est quelque chose qui est formulé comme ça aujourd'hui ou est-ce que c'est là depuis les origines ?
C'est là depuis les origines. Hein. Alors il y a toute la manière aussi d'expliciter, de donner à vivre ou à penser. Le Bouddha se présente comme un médecin. Alors on pourrait dire un médecin de l'âme, pas exactement parce qu'il n'y a pas cette notion d'âme, mais cette manière d'aborder et il y a toute une présentation du projet, du chemin qui est en termes d'une analyse des symptômes et l'analyse de l'état de santé et de la médication. Il y a vraiment cette présentation très traditionnelle depuis les origines.
Avec une idée de voix, évidemment, quand on a évoqué et lundi et finalement hier dans une application très sportive, le but, il y a le chemin pour atteindre ce but. Dans vos écrits et dans ceux que vous citez, on retrouve ce mot chemin, mais plus généralement, on retrouve le mot voix. Comment est-ce qu'il faut entendre cette traduction-là et qu'est-ce qu'elle traduit ?
C'est vraiment de ressentir que nous allons... Alors, nous sommes inscrits dans une temporalité, donc de toute façon, nous marchons. Nous sommes dans un chemin, le chemin de la vie. Ce chemin, les disciples du Bouddha vont l'emprunter avec ce projet de l'éveil. Et ça va devenir une voie, c'est-à-dire que chaque pas que l'on va faire, c'est-à-dire chaque action, chaque parole, et les bouddhistes diront aussi, chaque pensée doit être imprégnée par cette dynamique du projet. Donc c'est en ce sens qu'on parle de voix au sens de quelque chose de total qui irrigue toute la vie.
Lundi aussi, on évoquait un projet qui dépendait énormément de celui qui le formulait, c'est-à-dire qu'il y avait une importance très forte à l'auteur de ce projet. Est-ce qu'on dirait de même dans ce projet-là, dans la voix bouddhiste, à savoir est-ce qu'elle dépend uniquement de celui qui le formule, de l'individu ?
Alors, tout à fait. On porte aussi beaucoup d'attention au fait que cheminer sur cette voie, on peut le faire d'une manière, on pourrait dire, à pas mesurer, à pas détourner, et puis on peut vraiment marcher. Et ça passe par un acte de décision. Et on porte beaucoup d'attention au fait de dire « oui, je m'engage sur cette voie ». Donc ça passe... d'une manière traditionnelle, par des rites ou par la parole, une personne va dire oui, maintenant, j'ai décidé de m'engager. M'engager sur cette voie, non pas que je vais réussir, forcément aller au bout, mais j'ai toujours en mémoire, comme une sorte de motivation permanente, ce cheminement.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas de rapport explicite à faire entre le bouddhisme et le religieux, et le dogme religieux, en tout cas pas directement, pas de cette manière-là. Donc c'est un engagement qui se fait vis-à-vis de qui ?
Alors, on l'analyse toujours d'un point de vue traditionnel, c'est vis-à-vis du Bouddha, vis-à-vis de ses disciples, vis-à-vis de soi.
Ce n'est pas une révérence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée de soumission à une force ou à quelque chose qui est supérieur.
Ah non, 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 non. Il y a vraiment ces enseignements, on pourrait dire qu'ils sont athées ou agnostiques. Mais ce n'est même pas une question qui se pose. Poser cette question, vous m'en parlez, pour moi c'est un peu surprenant parce que ce n'est pas dans mon univers, en tout cas, de pratiquant bouddhiste.
Alors quand vous parlez de l'engagement, c'est un engagement vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi ?
On pourrait dire vis-à-vis de soi. Alors, aussi dans cette approche, c'est vraiment de sentir qu'on n'est jamais séparé des autres. Et plus particulièrement dans le courant dans lequel je m'inscris, à chaque fois qu'on est en relation avec soi-même, on est nécessairement en relation avec les autres. Donc, prendre un engagement, c'est à la fois un engagement vis-à-vis de soi-même, mais aussi un engagement vis-à-vis aussi des autres. C'est-à-dire que l'idée, c'est on se libère. C'est vraiment cette idée de se libérer de ces traits névrotiques. Mais en même temps, ça ne peut pas être dans une dimension égotique, puisque ça, c'est vraiment le propre de la névrose d'un point de vue bouddhique. Donc nécessairement, il y a une dimension d'ouverture avec les autres et d'aider les autres aussi à ouvrir des espaces intérieurs. Donc on pourrait dire vis-à-vis un engagement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres.
Shariputra, celui qui cherche le Dharma cherche sans croire à la réalité absolue du Bouddha. Il cherche sans croire à la réalité absolue du Dharma. Et il cherche sans croire à la réalité absolue de la communauté. Celui qui cherche le Dharma cherche sans reconnaître la souffrance, sans en détruire la cause, sans en actualiser la cessation et sans pratiquer sur la voie. Pourquoi ? Parce que le Dharma, qui est le réel, est libre des proliférations du jugement. En effet, penser qu'on va reconnaître la souffrance, en détruire la cause, en actualiser la cessation et s'exercer sur la voie, ce ne sont là que des proliférations du jugement. Le Dharma n'adopte pas plus qu'il ne rejette. Or, adopter certaines choses pour en rejeter d'autres, c'est adopter et rejeter et non chercher le Dharma. Le Dharma n'a pas de base fondamentale. Or, croire à la réalité d'une telle base, c'est s'attacher à une idée de lieu et non chercher le Dharma. Le Dharma porte le nom de 100 caractéristiques. Or, connaître à travers les caractéristiques, c'est chercher les caractères particuliers et non chercher le Dharma. Le Dharma ne peut pas se figer. Or, se figer sur le Dharma, c'est se figer et non chercher le Dharma. Le Dharma n'est ni sensible ni intelligible. Or, œuvrer dans le sensible et l'intelligible, c'est s'y cantonner et non chercher le Dharma. Le Dharma porte le nom d'inconditionné. Or, agir sur le conditionné, c'est chercher le conditionné et non chercher le Dharma. En conséquence, Shariputra, celui qui cherche le Dharma, qui est le réel, ne devrait au sein de toute chose rien chercher. Thank you.
Éric Romeluère, est-ce que vous pouvez nous présenter le texte que vient de lire Cyril Baer pour nous, puisque c'est vous qui en avez eu l'idée?
C'est un des plus beaux textes. C'est le Sutra de Vimalakirti. C'est un des textes les plus radicaux qu'a produit les enseignements bouddhiques. C'est un texte indien qui vraisemblablement a été écrit au 1er siècle, au 2e siècle après Jésus-Christ, et qui travaille vraiment en profondeur sur la condition humaine et sur le chemin que tout pratiquant bouddhiste, sur lequel il chemine. Je vous ai choisi ce passage qui est tout en paradoxe, et tout le livre est un immense paradoxe, et qui finit par cette phrase: en conséquence, celui qui cherche ne devrait au sein de toute chose rien chercher. Voilà, c'est difficile à saisir, mais il y a vraiment un regard sur le paradoxe aussi dans ces traditions. Le paradoxe peut nous entraver, il peut aussi nous libérer. Donc il y a un usage des paradoxes pour nous montrer une autre dimension. Si vous me permettez, je voudrais revenir pour tenter un peu d'expliciter ce texte, sur cette notion ou sur cette approche de la construction de l'identité dans les traditions bouddhistes. Pour essayer de le retranscrire, on pourrait dire avec une certaine simplification qu'il y a cette approche de dire l'être humain se constitue à partir du regard sur sa propre fragilité, sur sa propre vulnérabilité, que nous naissons dans un monde où nous sommes nus. Et face à cette nudité de l'existence, c'est trop difficile. Donc il va y avoir une angoisse qui va se constituer face à cette fragilité, à cette vulnérabilité, et cette angoisse a besoin d'être refoulée. Et ce qui va nous permettre de vivre et de dire que au quotidien, aujourd'hui, demain, après-demain, auront une consistance, et que ce n'est pas quelque chose qui se défait dans l'instant, que la mort qui peut surgir à chaque instant n'est pas quelque chose qui nous encombre. Donc on a besoin de refouler cette angoisse, mais ça va susciter un certain mode d'être. Et tout le regard que portent ces enseignements, c'est sur la question du manque. Nous vivons à travers le manque, qui, quand nous pouvons satisfaire nos besoins, nos désirs, tout va bien. Et lorsque on est insatisfait, l'angoisse ressurgit. Donc ça, c'est la condition ordinaire, celle que nous connaissons tous les jours, le moment de plaisir, le moment de déplaisir. Mais tout le propos, c'est: pouvons-nous vivre notre fragilité, notre vulnérabilité sans cette angoisse névrotique? C'est ça le projet. Et un texte comme ça, c'est finalement aussi le bouddhisme est bien conscient on peut faire aussi de l'éveil, c'est-à-dire ce changement potentiel, quelque chose qui est aussi de l'ordre du désir, et de le vivre à travers le manque. Est-ce que l'éveil nous manque? Donc nous sommes dans un projet, c'est-à-dire d'avancer, mais le projet pédagogique, c'est de construire sur ce chemin, sur une autre appréciation de l'existence que le manque. Donc il y a tout un jeu de stratégies, de thérapeutiques, de dispositifs pour vivre et pour travailler sur soi en dehors de ces modes ordinaires.
C'est-à-dire qu'il faut imaginer un chemin sur lequel chemine celui qui est bouddhiste ou qui est dans cet enseignement-là de la tradition bouddhique, qui va vers l'éveil sans que l'éveil ne lui manque, sans que l'éveil soit vécu comme quelque chose lui manquant. Je vais vers quelque chose qui est mon but, mais ce but que j'atteins ou ce vers quoi je tends ne me manque pas.
On pourrait dire cela. Voilà, c'est toute une approche. Alors, pour le dire d'une manière très concrète, parce que c'est une explication un peu extérieure, toute la pédagogie, on parlait tout à l'heure de méditation, c'est de se placer aussi dans des dispositions où on va retourner à des qualités fondamentales. Et on va redécouvrir. Donc, d'une certaine manière, chaque tradition aussi a son approche du projet. Mais il y a la manière aussi de dire on va vers quelque chose, ou simplement on peut dire aussi on retrouve quelque chose. Donc il y a la dimension de se retrouver ou de retrouver les qualités non névrotiques. Donc ça, c'est aussi l'espace de la méditation où on va tenter d'ouvrir quelque chose qui n'est pas en termes d'agripper, de saisir, d'atteindre toutes ces choses-là. Donc d'être sans jugement, sans attente, sans comparaison. Ça, c'est vraiment les indications minimales que l'on donne à tout pratiquant.
Par exemple, on disait lundi que tout but s'envisageait dans une façon finalement d'accaparer, de s'accaparer le futur, de prévoir quelque chose sur le futur qui l'agrippe, qui le conditionne, qui le définit d'une manière suffisamment unilatérale pour qu'on puisse dire le but est ou non atteint. Mais si l'on s'en tient à l'idée de l'impermanence ou à l'idée de cette pédagogie du changement permanent, finalement l'idée d'un but qu'on atteint n'est pas possible, ça ne tient pas debout.
Oui, on pourrait dire qu'en fait c'est l'horizon, c'est plutôt de cet ordre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une direction, un regard, une marche, mais en même temps on est toujours à distance, et puis d'une certaine manière c'est toujours là. Donc c'est tout ce côté paradoxal sur lequel travaillent ces enseignements pour nous déporter des modes ordinaires. Donc il y a vraiment un regard à montrer quelque chose. Donc il y a se diriger vers. Donc c'est l'horizon, mais on marche vers l'horizon et l'horizon toujours nous échappe. Et aussi vraiment aussi tout le regard, c'est toujours aussi sur sa condition humaine présente avec ses difficultés du quotidien.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois, il y aurait presque deux directions à cette marche-là. On manie vraiment des paradoxes, mais il y aurait quelque chose qui serait très en nous et dont nous aurions, entre guillemets, sans se l'accaparer, mais le savoir. Et quelque chose qui serait très devant et en permanence nous échapperait. Et on cheminerait à la fois très devant et très dans nous.
Oui, c'est une manière aussi de présenter. C'est aussi, par exemple, une manière de laisser s'ouvrir cette dimension du projet, c'est d'avoir un projet inatteignable. Par exemple, j'ai pris des vœux, et ça commence le premier, c'est « Aussi nombreux que soient tous les êtres, je fais le vœu de les sauver. » Est-ce que dans ma vie limitée, je pourrais sauver ? Alors, ce qu'on parle par « sauver », c'est de libérer chaque être de sa condition, de ses conditions névrotiques. D'une manière, on pourrait dire pragmatique, vraisemblablement, je ne le pourrais pas. Mais c'est quelque chose que l'on essaye d'incarner. Donc quelque chose qui nous emmène et qui nous tire presque à notre corps défendant.
Parce que c'est trop grand.
Exactement. Exactement.
En même temps, vous dites, je fais le vœu de pouvoir sauver en tant que sauver veut dire libérer l'autre de sa condition névrotique. Et tout à l'heure, un peu plus tôt, vous avez dit dans la discussion que s'il y avait quelqu'un capable de sauver quelqu'un, ce n'était que soi, et qu'on ne pouvait pas être sauvé par quelqu'un d'autre, d'une certaine manière.
C'est qu'on ne fait jamais de distinguo, soi et les autres. Si j'existe, vous existez. Si vous existez, j'existe. Alors, d'un point de vue, on pourrait dire intellectuel, il faut construire tout ça, mais c'est quelque chose de très expérimental, notre être commun. Je me nourris de ce que vous êtes, vous vous nourrissez de ce que je suis. On ne peut pas séparer. Donc, si un pratiquant du Dharma chemine, il chemine avec soi, avec sa condition, il est toujours aussi en relation, il parle, il écoute, donc son regard est toujours porté. Et surtout, un des points aussi d'entrer dans cette dimension non névrotique, c'est de toucher aussi la dimension de l'amour et de la bienveillance que nous avons en chacun d'entre nous. Elle n'est pas limitée, elle n'est pas unilatérale, elle s'adresse à la fois à tout ce que nous sommes, nous, en moi, et pas simplement les aspects sympathiques, mais aussi les aspects antipathiques, le noir, le blanc. Donc vraiment un regard complètement englobant qui embrasse tout ce que je suis. Je peux le porter vis-à-vis de moi-même. Et en même temps, je peux aussi ouvrir ce regard de bienveillance et de travail aussi sur les autres.
Quand vous parlez de travail et quand vous parlez de rejoindre l'amour et la bienveillance, j'ai envie de dire quand et comment ? C'est-à-dire que tout ça me paraît, dans la formulation, tellement enviable qu'il faudrait en donner une sorte de réalisation possible.
C'est très concret. Alors là, on parle à travers des mots, mais il y a vraiment quelque chose de très concret dans les enseignements du Dharma, du Bouddha. Par exemple, on parle beaucoup de le Bodhisattva, c'est-à-dire celui qui chemine dans cette voie, développe des qualités. Et on parle toujours de la générosité, les paroles aimantes. Alors, il y a aussi les actions profitables et la coopération. C'est-à-dire vraiment de rentrer dans un rapport avec autrui non agressif.
Vous parlez aussi de tendresse souvent dans vos écrits.
Exactement. Voilà, par exemple, la parole. Hein, on est ici dans une radio, donc nos auditeurs ne nous voient pas. Les mots que nous disons ont une puissance. On ne réfléchit pas assez à la force des mots qui peuvent nous blesser, nous endommager, mais aussi nous libérer. Donc toujours, c'est d'ouvrir des espaces de libération. Donc la dimension de la parole et de comment parler, comment entrer en contact par les mots est quelque chose de très concret.
Non seulement nous parlons ici, mais nous offrons la parole à d'autres et nous transmettons la parole des autres. Cette semaine, nous feuilletons un recueil du poète Gilles Ayot. Gilles Ayot est né en 1928 à Paris et il est mort en 2005. C'était un peintre, un auteur, un scénographe français. Nous feuilletons ce recueil qui s'appelle « Dans le bleu foncé du matin », paru en 1987 aux éditions Bourgois, et c'est Bruno Raffaelli qui lit « Préambule ».
Orient grec des îles sans automne, toujours plus proche de l'horizon. Le vent sec qui souffle de la mer et entretient doublement la soif fait bruisser, comme des squelettes légers, les tiges qui ne pourrissent jamais. Les herbes sans sépulture font entendre sans fin un murmure inflexible d'oracle. Ici, le temps maintient ces époques, et la loi de la discontinuité règne sans discontinuer. Rien n'échappe à qui veut être homme. Mais dans le sable déserté de l'hiver, les chardons du nord ont repris vie, et devant l'insondable, plus personne ne veut être homme. Même le génie du mal s'agite comme un manteau vide. Terre atlantique au rivage, si plat, que la voix s'exténue dans un crépuscule sans fin. Infinité du sexe fermé, lavé par le ciel, poli et parfumé par la mer, hors saison. Un objet perdu a été rendu sur ce miroir. De loin, on dirait un pélican qui meurt, ou Dante et Virgile accrochés l'un à l'autre. C'est l'âme d'un solitaire. Soulevée par le vent et l'odeur de l'amour, elle claque comme une voile sur la matière aimée.
Tonko Marwaman connaît par cœur ce titre de Bob Marley que chacun aura reconnu, Natural Mystic. Merci beaucoup Eric Romeluère d'avoir été avec nous. Le bouddhisme n'existe pas, les bouddhas naissent dans le feu et le bouddhisme engagé, tout ça est paru aux éditions du Seuil. On signalait aussi tout à l'heure Se soucier du monde, c'est un plus petit livre, il est paru aux éditions Almora. Merci beaucoup.
Merci Marie-Richaud.
Pour écouter cette émission, le site franceculture.fr vous sera d'un parfait secours. Vous pourrez aussi vous y abonner au podcast. L'émission s'appelle Pas la peine de crier. Et les podcasts du Poème du jour, du Polaroid et de Je déballe ma bibliothèque y sont aussi disponibles. Pour nous écrire, un formulaire fonctionne parfaitement. Et nous vous remercions chaleureusement pour les petits mots que vous y déposez. Aux manettes aujourd'hui, c'était Vincent Ronet. Merci à Véronique Lamandour et Céline Geoffroy. Pas du tout. Merci à Béatrice Leca et Marie Placet pour le poème du jour. À Cyril Baer, Inès Duperron et Romain Debecq-Delièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi, et à Anne-Laure Chanel car elle la réalise. À demain, même heure, même signal, dans un instant, le 5 à 7.